Les étapes de la croissance économique. Venons-en maintenant à la croissance de la production par habitant. Ainsi que nous l'avons déjà noté, la progression sur l'ensemble de la période 1700-2012 est exactement du même ordre que celle de la population. 0,8% par an en moyenne, soit une multiplication par plus de 10 en 3 siècles. Le revenu moyen au niveau mondial est actuellement d'environ 760 euros par mois et par habitant. En 1700, il était inférieur à 70 euros par mois, soit approximativement le même niveau que dans les pays les plus pauvres de l'Afrique subsaharienne de 2012. Cette comparaison est suggestive, mais sa portée ne doit pas être exagérée. Quand on cherche à mettre en parallèle des sociétés et des époques aussi différentes, il est illusoire de prétendre pouvoir tout résumer par un chiffre unique, du type « le niveau de vie dans telle société est 10 fois plus élevé que dans telle autre ». Quand elle atteint de telles proportions, la croissance de la production par habitant est une notion beaucoup plus abstraite que celle de la population, qui au moins correspond à une réalité bien tangible. Il est plus facile de compter les habitants que les biens et services. L'histoire du développement économique est d'abord celle de la diversification des modes de vie et des types de biens et services produits et consommés. Il s'agit donc d'un processus multidimensionnel qui par nature ne peut être résumé correctement par un seul indicateur monétaire. Prenons l'exemple des pays les plus riches. En Europe occidentale, en Amérique du Nord ou au Japon, le revenu moyen est passé d'à peine plus de 100 euros par mois et par habitant en 1700 à plus de 2500 euros par mois en 2012, soit une multiplication par plus de 20. En réalité, la progression de la productivité, c'est-à-dire de la production par heure travaillée, a été plus élevée encore, car la durée moyenne du travail par habitant a beaucoup diminué. Toutes les sociétés développées ont fait le choix, au fur et à mesure de leur enrichissement, de travailler moins longtemps, afin de disposer de plus de temps libre, journées de travail plus courtes, vacances plus longues, etc. Sur longue période, le nombre moyen d'heures travaillées par habitant a été approximativement divisé par 2, avec des variations significatives entre pays, si bien que la croissance de la productivité a été de l'ordre de 2 fois plus élevée que celle de la production par habitant. Cette progression spectaculaire doit beaucoup au XXe siècle. Au niveau mondial, la croissance moyenne de 0,8% par an de la production par habitant entre 1700 et 2012 se décompose en à peine 0,1% au XVIIIe siècle, 0,9% au XIXe siècle et 1,6% au XXe siècle. Voir tableau 2.1. En Europe occidentale, la croissance moyenne de 1,0% entre 1700 et 2012 se décompose en 0,2% au XVIIIe siècle, 1,1% au XIXe siècle et 1,9% au XXe siècle. Le pouvoir d'achat moyen en vigueur sur le vieux continent a tout juste progressé entre 1700 et 1820, puis a été multiplié par plus de 2 entre 1820 et 1913, et par plus de 6 entre 1913 et 2012. Le XVIIIe siècle se caractérise dans le fond par la même stagnation économique que les siècles précédents. Le XIXe siècle connaît pour la première fois une croissance soutenue de la production par habitant, mais de vastes segments de la population n'en profitent guère, tout du moins jusqu'au dernier tiers du siècle. Il faut attendre le XXe siècle pour que la croissance économique devienne véritablement une réalité tangible et spectaculaire pour tous. À la Belle Époque, vers 1900-1910, le revenu moyen des Européens est d'à peine 400 euros par mois, contre 2500 euros par mois au début des années 2010. Mais que signifie un pouvoir d'achat multiplié par 20, par 10 ou même par 6 ? Cela ne signifie évidemment pas que les Européens de 2012 produisent et consomment des quantités 6 fois plus importantes de tous les biens et services qu'ils produisaient et consommaient en 1913. Par exemple, les consommations moyennes de produits alimentaires n'ont bien sûr pas été multipliées par 6. Cela n'aurait d'ailleurs eu aucun intérêt, puisque les besoins alimentaires auraient été saturés depuis longtemps. En Europe, comme dans tous les pays, la croissance du pouvoir d'achat et du niveau de vie sur longue période repose avant tout sur la transformation des structures de consommation. À une consommation constituée majoritairement de produits alimentaires, s'est progressivement substituée une consommation beaucoup plus diversifiée, riche en produits industriels et en services. D'ailleurs, même si les Européens de 2012 souhaitaient consommer des quantités 6 fois plus importantes de tous les biens et services qu'ils consommaient en 1913, ils ne le pourraient pas. Certains prix ont en effet progressé plus vite que la moyenne des prix, alors que d'autres ont progressé moins vite, si bien que le pouvoir d'achat n'a pas été multiplié par 6 pour tous les types de biens et services. Sur courte période, ces problèmes de prix relatifs peuvent être négligés et on peut considérer que les indices de prix moyens établis par les administrations économiques et statistiques permettent de mesurer correctement la progression du pouvoir d'achat. Mais sur longue période, quand la structure des consommations et des prix relatifs se modifie radicalement, notamment du fait de l'apparition de nouveaux biens et services, ces indices de prix moyens ne permettent pas de bien rendre compte de la nature des transformations qui ont eu lieu, et ce, quelle que soit la sophistication des techniques utilisées par les statisticiens pour traiter les milliers de relevés de prix dont ils disposent et le soin qu'ils prennent pour mesurer les améliorations de qualité des produits. Que signifie un pouvoir d'achat multiplié par 10? En réalité, la seule façon de véritablement prendre la mesure de la progression spectaculaire que les niveaux et les modes de vie ont connus depuis la révolution industrielle consiste à se reporter au niveau de revenus exprimés en monnaie courante et à les comparer au niveau de prix des différents biens et services en vigueur aux différentes époques. Contentons-nous de résumer ici les principaux enseignements d'un tel exercice. On distingue classiquement les biens industriels, pour lesquels la croissance de la productivité a été beaucoup plus rapide que la moyenne de l'économie, si bien que leurs prix ont baissé relativement à la moyenne des prix. Les biens alimentaires, pour lesquels la progression de la productivité a été continue et déterminante sur très longue période, cela a notamment permis de nourrir une population en forte hausse, tout en libérant pour d'autres tâches une part croissante de la main-d'œuvre agricole, mais bien moins rapide que celle des biens industriels, si bien que leurs prix ont évolué à peu près comme la moyenne des prix. Et enfin, les services, pour lesquels la croissance de la productivité a généralement été relativement faible, voire nulle dans certains cas, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ce secteur tend à absorber une proportion sans cesse plus importante de la main-d'œuvre, et dont les prix ont augmenté plus vite que la moyenne des prix. Ce schéma général est bien connu. Il est globalement vrai dans ses grandes lignes, mais il mérite d'être affiné et précisé. Il existe en effet une grande diversité de situations à l'intérieur de chaque secteur. Pour de nombreux produits alimentaires, les prix ont effectivement progressé comme la moyenne. Par exemple, en France, le prix du kilo de carottes a évolué comme l'indice général des prix entre 1900-1910 et 2000-2010, si bien que le pouvoir d'achat exprimé en carottes a évolué comme le pouvoir d'achat moyen, soit approximativement une multiplication par 6. Le salarié moyen pouvait se payer à peine 10 kilos de carottes par jour au début du XXe siècle, et il peut s'en offrir près de 60 kilos en ce début du XXIe siècle. Tout dépend bien sûr de l'endroit où il achète ses carottes. Nous parlons ici de l'indice moyen. Pour d'autres produits comme le lait, le beurre, les œufs, les produits laitiers qui ont bénéficié de progrès techniques importants dans le domaine de la traite, de la fabrication, de la conservation, etc., on observe des baisses de prix relatifs et donc des hausses de pouvoir d'achat supérieures à 6. Il en va de même pour les produits qui ont bénéficié de la baisse considérable des coûts de transport. En un siècle, le pouvoir d'achat français en termes d'orange a ainsi été multiplié par 10 et le pouvoir d'achat en termes de banane par 20. Inversement, le pouvoir d'achat mesuré en kilos de pain ou de viande a été multiplié par moins de 4, avec, il est vrai, une forte augmentation de la qualité et de la variété des produits proposés. La diversité des situations est plus forte encore parmi les biens industriels, notamment du fait de l'apparition de produits radicalement nouveaux et de l'amélioration spectaculaire de leurs performances. L'exemple typique pour la période récente et l'électronique et l'informatique. Les progrès réalisés par les ordinateurs et les téléphones portables dans les années 1990-2000, puis les tablettes et les smartphones dans les années 2000-2010, correspondent parfois à des multiplications par 10 du pouvoir d'achat en quelques années. Le prix d'un produit est divisé par 2, alors même que sa performance est multipliée par 5. Il est important de réaliser que l'on peut aisément trouver des exemples tout aussi spectaculaires tout au long de l'histoire du développement industriel. Prenons le cas de la bicyclette. Dans les années 1880-1890, le modèle le moins cher disponible dans les catalogues de vente et les documents commerciaux vaut en France l'équivalent de 6 mois de salaire moyen. Encore ne s'agit-il que d'une bicyclette relativement rudimentaire, dont les roues ne sont revêtues que d'une bande de caoutchouc plein qui n'a qu'un seul frein à action directe sur le bandage avant. Le progrès technique permet de faire tomber le prix à moins d'un mois de salaire moyen dans les années 1910-1920. Les progrès continuent et on peut acheter dans les catalogues des années 1960-1970 des bicyclettes de qualité, avec roues libres, deux freins, couvre-chaîne et garde-boue, porte-bagages, éclairage, catadioptre. Pour moins d'une semaine de salaire moyen. Au total, sans même prendre en compte la progression vertigineuse de la qualité et de la sécurité du produit, le pouvoir d'achat en termes de bicyclette a été multiplié par 40 entre 1890 et 1970. On pourrait multiplier les exemples en examinant l'évolution du prix des ampoules électriques, des équipements ménagers, des draps et des assiettes, des vêtements et des automobiles dans les pays développés comme dans les pays émergents et en les comparant aux salaires en vigueur. Tous ces exemples montrent également à quel point il est vain et réducteur de prétendre pouvoir résumer toutes ces transformations pour un unique indicateur du type « le niveau de vie entre telle et telle époque a été multiplié par 10 ». Quand les modes de vie et les structures des budgets des ménages se modifient aussi radicalement et que la progression du pouvoir d'achat varie autant suivant les biens considérés, la question du chiffre moyen n'a pas beaucoup de sens, tant le résultat exact dépend finement des pondérations choisies et des mesures de la qualité retenues, qui sont les unes et les autres relativement incertaines, surtout lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons sur plusieurs siècles. Cela ne remet évidemment pas en cause la réalité de la croissance, bien au contraire. Il est clair que les conditions matérielles d'existence se sont améliorées de façon spectaculaire depuis la révolution industrielle, permettant aux habitants de la planète de mieux se nourrir, se vêtir, se déplacer, s'informer, se soigner, et ainsi de suite. Et cela ne remet pas non plus en cause l'intérêt de la mesure des taux de croissance sur des périodes plus courtes, par exemple à l'échelle d'une ou deux générations. Sur une période de 30 ou 60 ans, cela a du sens de savoir si le taux de croissance a été de 0,1% par an, 3% par génération, 1% par an, 35% par génération, ou 3% par an, 143% par génération. C'est uniquement lorsqu'on les cumule sur des périodes trop longues et que l'on aboutit à des multiplications spectaculaires que les taux de croissance perdent une partie de leur sens et deviennent des quantités relativement abstraites et arbitraires. La croissance, une diversification des modes de vie. Examinons pour finir le cas des services, pour lesquels la diversité des situations est sans doute la plus extrême. En principe, les choses sont relativement claires, la productivité a moins fortement progressé dans ce secteur, donc le pouvoir d'achat exprimé en service a moins nettement augmenté. Le cas typique du service pur, n'ayant connu aucune innovation technique notoire au cours des siècles, est supposé être celui des coiffeurs. Une coupe de cheveux nécessite toujours le même temps de travail qu'au début du siècle, si bien que le prix d'un coiffeur a été multiplié par le même coefficient que le salaire des coiffeurs, qui a lui-même progressé au même rythme que le salaire moyen et que le revenu moyen, en première approximation. Autrement dit, en travaillant une heure, le salarié moyen du début du XXIe siècle peut se payer approximativement le même nombre de coupes de cheveux que le salarié moyen du début du XXe siècle. On constate de fait que le pouvoir d'achat exprimé en termes de coupes de cheveux n'a pas augmenté et a même légèrement baissé. En réalité, la diversité des cas est tellement extrême, que la notion même de secteur des services n'a pas beaucoup de sens. La décomposition entre trois secteurs d'activité, primaire, secondaire, tertiaire, a été conçue au milieu du XXe siècle, dans des sociétés où chaque secteur regroupait des proportions similaires, ou au moins comparables, de l'activité économique et de la force de travail. Voir tableau 2.4. Mais à partir du moment où les services regroupent de l'ordre de 70%-80% de la main-d'œuvre dans tous les pays développés, alors cela signifie que cette catégorie statistique n'est plus vraiment pertinente. Elle fournit peu d'informations sur la nature des métiers et des services produits dans la société considérée. Pour se repérer au sein de cet énorme agrégat d'activités, dont le développement représente une large part de l'amélioration des conditions de vie depuis le XIXe siècle, il est utile de distinguer plusieurs blocs. On peut tout d'abord considérer les services de santé et d'éducation, qui regroupent à eux seuls plus de 20% de l'emploi total dans les pays les plus avancés, soit autant que tous les secteurs industriels réunis. Tout laisse à penser que cette proportion va continuer de croître, compte tenu des progrès médicaux et du développement continu de l'enseignement supérieur. Les emplois du commerce, des hôtels, cafés et restaurants, de la culture et des loisirs, également en forte progression, représentent typiquement plus de 20% de l'emploi total, voire plus de 25% dans certains pays. Les services aux entreprises, conseil, comptabilité, design, informatique, etc., ajoutés aux services immobiliers et financiers, agences immobilières, banques, assurances, etc., et de transport, avoisinent également les 20% de l'emploi total. Si l'on ajoute les services régaliens et de sécurité, administration générale, justice, police, forces armées, etc., qui s'approchent de 10% de l'emploi total dans la plupart des pays, on parvient approximativement aux 70-80% annoncés dans les statistiques officielles. Précisons qu'une part importante de ces services, en particulier dans la santé et l'éducation, est généralement financée par l'impôt, et fournie gratuitement à la population. Les modalités de financement varient suivant les pays, de même que le niveau exact de la part financée par l'impôt. Elle est par exemple plus élevée en Europe qu'aux États-Unis et au Japon, mais elle est très significative dans tous les pays développés, généralement au moins la moitié du coût total des services de santé et d'éducation, et plus des trois quarts dans de nombreux pays européens. Cela introduit potentiellement de nouvelles difficultés et incertitudes concernant la mesure et les comparaisons de la croissance du niveau de vie sur longue période et entre pays. La question est loin d'être anecdotique. Outre que ces deux secteurs représentent plus de 20% du PIB et de l'emploi dans les pays les plus avancés, et sans nul doute davantage encore à l'avenir, la santé et l'éducation représentent probablement les améliorations les plus réelles et les plus remarquables des conditions de vie au cours des derniers siècles. À des sociétés où l'espérance de vie était d'à peine 40 ans et où presque tout le monde était analphabète, se sont substituées des sociétés où l'on vit couramment plus de 80 ans et où chacun dispose d'un accès minimal à la culture. Dans les comptes nationaux, la valeur des services publics disponibles gratuitement est toujours estimée à partir des coûts de production acquittés par les administrations publiques et donc, in fine, par les contribuables. Ces coûts incluent en particulier la masse salariale versée au personnel de santé et aux enseignants employés dans les hôpitaux, les écoles et les universités publiques. Cette méthode a ses défauts, mais elle est logiquement cohérente, et en tout état de cause, elle est nettement plus satisfaisante que celle qui consisterait à exclure purement et simplement les services publics gratuits du calcul du PIB et à se concentrer sur la seule production marchande. Une telle exclusion serait économiquement absurde, puisqu'elle mènerait à sous-estimer de façon totalement artificielle le niveau de production intérieure et de revenu national d'un pays choisissant un système public de santé et d'éducation plutôt qu'un système privé, y compris si les services disponibles sont rigoureusement les mêmes dans les deux cas. La méthode utilisée par les comptes nationaux permet au moins de corriger ce biais. Elle n'est pas parfaite pour autant. En particulier, elle ne s'appuie pour l'instant sur aucune mesure objective de la qualité des services rendus. Des progrès sont prévus en ce sens. Par exemple, si un système d'assurance santé privé coûte plus cher qu'un système public, sans que la qualité des soins soit véritablement supérieure, comme le laisse à penser la comparaison entre États-Unis et Europe. Alors, le PIB sera artificiellement surévalué dans les pays reposant davantage sur un système privé. Il faut également noter que les comptes nationaux choisissent par convention de ne comptabiliser aucune rémunération pour le capital public, tel que les bâtiments et équipements des hôpitaux publics ou des écoles et universités. La conséquence est qu'un pays privatisant ses services de santé et d'éducation verrait son PIB augmenter artificiellement, y compris si les services produits et les salaires versés aux employés concernés restaient exactement les mêmes. On peut également considérer que cette méthode de valorisation par les coûts conduit à sous-estimer la valeur fondamentale de l'éducation et de la santé, et donc la croissance réalisée pendant les périodes de vaste expansion éducative ou sanitaire. Il ne fait donc aucun doute que la croissance économique a permis une amélioration considérable des conditions de vie sur longue période, avec, d'après les meilleures estimations disponibles, une multiplication par plus de 10 du revenu moyen au niveau mondial entre 1700 et 2012, de 70 euros à 760 euros par mois, et par plus de 20 dans les pays les plus riches, de 100 euros à 2500 euros par mois. Compte tenu des difficultés liées à la mesure de transformation aussi radicale, surtout si l'on cherche à les résumer par un indicateur unique, de tels chiffres ne doivent toutefois pas être fétichisés et doivent plutôt être considérés comme de simples ordres de grandeur.